maintenant faire un tour dans le monument. Au premier regard, on voit le château qui se dresse, imposant et majestueux, sur une terre verdoyante, fertile et idyllique. De plus près, on peut admirer les jardins du monument où se mêlent les plantes indigènes et importées. Parmi elles, on peut remarquer des cannes à sucre face au bureau du gardien et au fond, deux arbres énormes et séculaires. Le premier est un cyprès et le deuxième, une espèce d'acacia, Macaerium, bicentenaire de 26 mètres de hauteur selon le département des forêts. Le château actuel fut érigé en 1454 lors de l'époque du grand commandeur Louis de Magnac. Construit en pierre calcaire taillée, le château mesure 21 mètres de haut. Ses quatre côtés mesurent 16 mètres de long chacun à l'extérieur et 13,50 mètres de long chacun à l'intérieur. Les vestiges du château original du XIIIe siècle sont situés à l'est, au sud et au sud-ouest du monument. Parmi les vestiges, il faut mentionner le puits. Le château fut reconstruit suite aux dommages causés par les attaques des Mamelouks qui ont duré un an jusqu'en 1426 selon J. Jeffery. Le château actuel, très bien construit pour des raisons de sécurité, est considéré comme imprenable. En haut, sur la façade, on peut voir la Zemathistra, une bretèche permettant le jet de l'eau ou de l'huile bouillante sur les assaillants, et plus bas, l'entrée, avec les marches en pierre et le nouveau pont-levis. Le château comprend trois étages. Le rez-de-chaussée est réparti en trois pièces voûtées qui communiquent entre elles par des portes en ogive. Sur le sol, on peut voir les bouches des citernes d'eau. Un escalier intérieur de 24 marches mène au deuxième étage qui est composé de deux pièces. La pièce de l'ouest abrite une immense mais simple cheminée qui révèle l'existence d'une cuisine. Dans la pièce de l'est, on peut admirer la peinture murale du 15e-16e siècle ornant le mur sud et représentant la crucifixion avec la Vierge Marie à gauche et Saint Jean à droite. Au bas de la peinture, à gauche, on peut voir l'écu, une fleur de lys, du propriétaire du château Louis de Magnac. La peinture murale a été récemment restaurée par le département des Antiquités de Chypre et elle est protégée par une vitre. Un escalier intérieur tournant, en pierre, de 33 marches, donne accès au troisième étage qui est aussi composé de deux pièces. La première pièce devait être utilisée comme salle à manger et la deuxième comme chambre à coucher. Ces deux pièces sont dotées de grandes cheminées dont le manteau est orné de l'écu de Louis de Magnac. Les cheminées sont décorées de façon très soignée dans le style des châteaux des chevaliers de Rhodes. Les deux pièces sont très lumineuses grâce à 8 fenêtres. Devant chaque fenêtre, on peut voir des sièges encastrés, tandis que le mur du nord abrite un cabinet. Un autre escalier intérieur, tournant, de 35 marches, mène à la terrasse, où on peut voir la bretèche et ses 19 meurtrières. N'oublions pas de nous arrêter un instant pour admirer la vue. Au sud s'étendent les vignobles, des plantations d'agrumes, le lac salé de l'Emesos et les eaux bleues de la Méditerranée. Au nord, on distingue le village de Colossi, et au fond, le massif de Troodos. En bas, au sud du château principal, se trouve une cour entourée d'un mur. Au sud-ouest du château, on peut voir les vestiges d'un édifice annexe qui devait servir de remise et d'étable. À l'extérieur, sur la face orientale, on peut aussi admirer un caisson cruciforme à moulure. En haut, au centre, la plaque de marbre est ornée d'une couronne. L'écu central en forme de bouclier, écartelé, représente les armoiries complètes de la maison des Lusignan de Chypre de cette époque. En détail, à haut à gauche, au quartier 1, on peut voir la croix de Jérusalem, une croix potencée cantonnée de quatre croisettes. En haut à droite, le quartier 2 représente les armes passées de la maison des Lusignan. Burelet a un lion de gueule, armé, couronné, brochant sur le tout. En bas à gauche, le quartier 3 en or, représente le lion de gueule adopté par le royaume de Chypre. Et en bas à droite, le quartier 4 en argent, représente le lion rouge de gueule adopté par le royaume de la Petite Arménie, région de l'actuelle Cilicie. On constate donc que dès 1393, le roi de Chypre était aussi roi de Jérusalem et de la Petite Arménie. Les mêmes armoiries sont aussi représentées sur des pièces de monnaie de la maison de Lusignan. Les deux écus, occupant les branches de la croix, porte les armes des deux grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1454. Celle du maître élu Jacques de Milly, à gauche, et celle du maître sortant, Jean de Lastic, à droite. ainsi que les armes du propriétaire du château, Louis de Magnac, au registre inférieur. Il n'y a pas d'autres armoiries. Pourtant, le château de Colossi passa aux mains d'autres grands commandeurs, comme l'anglais John Langstrother et Nicolas Zaplana, après la décapitation de Langstrother en Angleterre. En 1488, la famille Cornaro devint propriétaire du château, selon l'historien français Louis de Malatry. Giorgio Cornaro, frère de la dernière reine des Francs, Catherine Cornaro, en fut le premier propriétaire. La commanderie de Colossi fut, pour une grande période, la possession la plus riche des chevaliers. Cela est évident par le fait qu'en 1468, la commanderie fut obligée de verser annuellement 4000 ducats aux chevaliers de Rhodes. Au début de la domination vénitienne, 1489, la commanderie possédait encore 41 villages équivalents à une rente annuelle de 8000 ducats. Après la conquête de l'île par les Turcs ottomans en 1571, la famille Cornaro perdit sa propriété. Pourtant, elle maintint le titre du grand commandeur. La famille de Cornaro disparut en 1799, mais le comte Mocenigo prétendit au titre en tant que mari de l'héritière de la famille. Le 18 septembre 1959, un an avant l'indépendance de Chypre et la fin de l'occupation britannique, le château de Colossi retrouva un peu de sa splendeur passée grâce à une cérémonie majestueuse organisée dans sa cour. La réception a réuni 300 invités, dont le gouverneur de Chypre, Sir Hugh Foot. Le premier lord de l'ordre de Saint-Jean remit les insignes de chevalier. Les trompettes sonnèrent du haut des tours et la cérémonie fut impressionnante. L'ordre opère sur l'île de Chypre depuis 1926, œuvrant à des fins de bienfaisance en collaboration étroite avec le département des services médicaux. Le château est un monument ancien classé qui relève de la première liste des biens publics. Il est la propriété du département des antiquités qui effectue chaque année des travaux d'entretien. Depuis 1992, des fouilles se déroulent sur le site de la sucrerie médiévale, notamment à l'est du château. La sucrerie est une construction oblongue voûtée du XIVe siècle, construite en pierre calcaire taillée et dotée d'une voûte pointue et d'ouvertures ogivales sur ses trois côtés. La sucrerie couvre une superficie totale d'environ 150 mètres carrés. Au nord, on distingue les vestiges du moulin à sucre et plus loin s'étend l'aqueduc. Mais comment fonctionnait cette raffinerie du Moyen-Âge ? Le moulin requérait beaucoup d'eau, qui était fournie par un aqueduc alimenté par les eaux de la rivière Couris. La force motrice de l'eau était utilisée pour actionner la meule broyant les cannes à sucre. Auparavant, il fallait éplucher les cannes et les couper en menus morceaux. Le même processus était suivi à Venise, selon El Lazzarini. Puis, il fallait passer les tiges dans une presse. Le jus coulait dans de grandes chaudières sur des feux foyers. Selon les archéologues qui poursuivirent les fouilles sur ce site, il fallait chauffer le jus, la mélasse, deux ou trois fois, jusqu'à obtenir du sucre de deux ou trois qualités différentes. Plus le jus était chauffé, plus le sucre était blanc. Cela est aussi indiqué dans les différentes jarres en terre cuite. Le sucre était donc versé dans les petites jarres à travers une trémie en terre cuite. Ce processus était également utilisé aux sucreries de Kouklia, de Palais Paphos et au moulin à sucre d'Épiscopie, au lieu dit Seraya. Des plantations de canne à sucre existaient sur l'île de Chypre depuis le Xe siècle. Pourtant, au XIIIe siècle, elles ont connu un véritable essor. Une grande partie du sucre produit fut livrée à la famille commerciale vénitienne de Martigny. D'autres régions de l'Orient, comme l'île de Rhodes, la Syrie et Alexandrie, étaient aussi productrices de sucre. Pourtant, Francesco B. Pegolotti signale que le sucre en poudre de Chypre était de qualité supérieure et qu'il était hautement apprécié. Les tremblements de terre qui ont secoué les Messos en 1567 et en 1568 ont provoqué des dégâts importants à la sucrerie, qui, selon l'inscription gravée sur le mur extérieur méridional, fut restaurée en 1591 par le pacha de Chypre, Mourat. Les fouilles qui se déroulent sur le site indique que pendant une période, au cours de la domination ottomane et même de la domination britannique, le moulin devait être utilisé comme moulin à farine. D'après les témoignages des visiteurs étrangers de l'époque, la culture des cannes à sucre se poursuivit jusqu'à la première décennie du XVIIe siècle, car les descriptions pour la période ultérieure ne mentionnent que des plantations de coton et de soie. En particulier, le Hollandais Cornelis van Bruyn, venu à Chypre en 1683, se réfère aux plantations de soie à Episcopi et aux riches plantations de soie et de coton à Kuklia. Un autre monument important est situé à 100 mètres à peine du château. Il s'agit de la petite église byzantine d'Agios Estathios du XIIe siècle, qui a subi diverses modifications au cours du XVe siècle. Les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem devaient se rendre à cette église, car en 1936, d'après l'inspecteur britannique des Antiquités, Rupert Gurnis, la voûte portait encore les armoiries du grand commandeur de l'ordre, Louis de Magnac.